I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Monsieur Cissé, mon pote, j'espère que ça va. Dis-moi, je te fais cette note pour te confirmer que c'est good, c'est calé l'épisode avec Gaël Caselli, qui est VP Sport d'AEG, et qui va nous parler des arènes, des stades, et plus particulièrement de leur gestion des différents modèles qui existent, sur fond de volonté du PSG de posséder le parc, ou pas, ou de partir ailleurs. Écoute, c'est pour lundi, rendez-vous au studio comme d'hab. Allez, je t'embrasse et on se voit là-bas. Ciao.
Matt, c'est une super nouvelle ça. Par contre, pour ce dernier épisode, je pourrais pas être là. Je suis encore en vacances. C'est quand même assez sympa ce concept de vacances, hein. Ce concept de transat, plage, sable blanc et poisson grillé. C'est assez sympa, tu devrais essayer. Donc ça va être Max qui va faire équipe avec toi, aka La Conscience. Et comme on l'avait dit depuis le début, celui qui rate un épisode, il paye les pizzas. Donc les pizzas, c'est pour moi à la rentrée.
Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Alternative Football et un numéro presque aussi particulier que celui d'avant puisque j'ai brillé par mon absence lors du dernier numéro et là c'est Monsieur Cissé qui est sorti sur blessure, remplacé par le très talentueux Maxime Marchand.
Je sais pas encore, mais l'avenir le dira.
Et on est particulièrement heureux, et je suis particulièrement heureux de recevoir quelqu'un que je connais plutôt bien et avec qui j'ai l'habitude et le plaisir d'échanger de manière régulière. Mais c'est la première fois qu'on sera scruté et écouté. Salut Gaël Caselli.
Bonjour à tous les deux.
Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Alors, dans la plus pure tradition d'Alternative Football, on va te poser la première question, qui est, et c'est un peu Monsieur Cissé qui est là sans être là, puisque c'est sa question fétiche. Gaël, quel est ton lien avec le football ?
Alors, mon lien avec le football, je dirais qu'il est, double. C'est d'abord un lien personnel, affectif, puisque c'est le sport que j'ai pratiqué toute ma vie. Alors la pudeur m'interdit de mentionner mon niveau. Mais,
le poste au moins.
Si Edouard était là, il t'aurait dit quel poste ?
Milieu de terrain.
D'accord.
Milieu de terrain. Donc grosse vision, manifestement trop peu de talent, mais en tout cas une vraie passion. Et plus sérieusement, dans le cadre de mes différentes expériences professionnelles, c'est un milieu et un business avec lequel j'ai beaucoup... J'ai beaucoup échangé. Je ne sais pas si on en parlera plus tard, mais ouais. Effectivement, dans différents types de missions et dans différents jobs. Le premier, c'était chez Sport5, qui est donc une agence de marketing sportif, au sein de laquelle j'étais chargé de faire de l'acquisition et de la vente de droits sportifs de compétitions nationales et internationales, avec un portefeuille très axé foot. Beaucoup de ligues domestiques, Bundesliga, Serie A, EPL, donc Première Ligue, pardon. À l'époque, toutes les qualifications Coupe d'Europe, tout ce qui est phase finale de l'Euro, de la Coupe du Monde, la CAF, enfin bref, il y avait un gros portefeuille à l'époque. Après ça, j'ai évolué pendant quelques années au sein de la LFP, où j'étais chargé du développement international. Donc là encore, une partie droit média, puisque je pilotais le contrat qui venait d'être signé avant mon arrivée avec beIN Sport. Sur les droits internationaux, et puis je m'occupais du Trophée des Champions que la LFP organise chaque année à l'étranger. Et puis là, plus récemment, dans le cadre de mes missions chez AEG, je suis administrateur d'un club en Suède, à Marby. Donc c'est, pour ceux qui ne sont pas des suiveurs de l'Allsvenskan suédoise, c'est donc un club de Stockholm, à peu près 20 millions d'euros de budget. Donc c'est plutôt un gros club de Ligue 2. Je dirais par comparaison, on a un budget moyen de 14 millions en Ligue 2, nous on est plutôt à 20 millions. Donc,
Et tu as la joie de partager les boards avec quelqu'un que les fans de foot en France connaissent plutôt bien.
Oui, alors il est actionnaire à nos côtés, si tu parles de Zlatan.
Je parle du Z, effectivement. Ouais.
Je ne dirais pas qu'il est là à chaque fois, loin s'en faut, mais j'échange beaucoup avec ses représentants. Et oui, c'est plutôt quelqu'un qui garde un œil extrêmement avisé sur la chose du football. Donc c'est assez amusant.
Écoute, tu as mentionné effectivement la LFP, tu as mentionné Sport 5, donc ton background très, très foot. Tu as fait d'autres choses, notamment, et pas des moindres, une société par laquelle t'es passé, c'est la NBA.
Ouais, j'ai commencé ma carrière à la NBA à l'époque où la Ligue avait son bureau IMIA à Paris.
Ouais.
J'y suis resté 5 ans aussi, et là-bas, je gérais la distribution, pas que moi, hein, mais je gérais la distribution des droits médias, des compétitions, donc NBA, WNBA, USAB, sur toute la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Donc, ouais, une super première expérience et une boîte magnifique.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est plus à Paris leur bureau, leur bureau.
Non, Londres.
Ils sont à Londres maintenant. Ouais, ouais. L'occasion de saluer
Trash Talk
et mon pote Bastien Lachny qui travaille à la NBA et qui, je sais, écoute, est un fervent
auditeur
d'Atlantic Football. Et donc AEG, c'est le présent, c'est là où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous contextualiser un petit peu les activités d'AEG qui sont vastes, qui sont nombreuses, et nous parler de tout ce que vous faites?
Oui, alors en quelques minutes, parce qu'effectivement c'est assez vaste, mais AEG c'est donc l'un des principaux producteurs d'événements sportifs et d'événements musicaux en direct dans le monde. C'est un acteur qui est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc le premier élément, c'est évidemment la propriété et l'exploitation d'arénas, de stades, de théâtres dans le monde. Donc on parle, pour donner quelques chiffres, entre AEG en direct et ses filiales, c'est environ 350 sites dans le monde. Ouais. C'est 22 000 événements accueillis, c'est 160 millions de fans. Globalement, ouais. Pour vous donner quelques exemples d'arena, ouais. La Crypto.com Arena à Los Angeles. Donc,
anciennement le Staples Center.
Anciennement Staples Center,
pour les gens de notre génération.
Pour les, ouais.
L'O2 à Londres, Mercedes-Benz Arena à Berlin, à Shanghai. Enfin voilà, beaucoup de sites de cet ordre-là. Et à côté de cette activité-là de gestion et d'opération de sites, il y a une activité de promotion musicale, de tournée. On est le deuxième plus gros tourneur mondial. Et donc, on organise environ 10 000 événements. Alors, ça peut être un concert de 200 personnes jusqu'à des tournées de stade. Pour mentionner quelques artistes qui sont dans notre portefeuille, Elton John, Céline Dion, les Rolling Stones, Shawn Mendes, Blackpink pour les fans de K-pop.
Parce qu'ils ont, c'est quoi l'histoire d'AEG et comment ça a commencé, juste pour comprendre un peu la culture de l'entreprise? Est-ce que ça a commencé par la musique ou tout de suite par le sport ou
Ça commence par le sport. Ça commence par le sport au milieu des années 90, quand le propriétaire d'AEG, donc le A de AEG, Phil Anschutz, achète les Kings de Los Angeles, donc la franchise de NHL de Los Angeles, et décide quelques années plus tard de leur construire une arène digne de ce nom, qui sera le Staples Center.
Okay.
Parallèlement à ça, dans le milieu des années 90, M. Anschutz est très impliqué dans la création de la MLS, puisqu'on est aujourd'hui toujours propriétaire du club des Galaxies, mais il a été propriétaire en totalité ou partiellement de 7 à 8 franchises au tout début de la Ligue, jusqu'à ce qu'il s'en désengage petit à petit et que d'autres propriétaires viennent le rejoindre et continuent à animer la ligue qu'on connaît aujourd'hui.
Tu as cité du coup plusieurs sports et plusieurs propriétés que vous avez à travers les différentes pratiques. Tu as aussi, toi, travaillé dans des organisations qui ne s'occupaient pas de foot, donc la NBA. Si on regarde de manière hyper macro, est-ce que entre les sports, déjà, il y a des manières différentes de gérer les arènes? Est-ce que les stades ont des importances différentes en fonction des sports? Comme ça, de but en blanc et de manière un peu naïve, j'aurais tendance à dire non. C'est-à-dire que si la pratique change, je ne vois pas pourquoi l'importance de ça changerait. Mais toi, ton regard sur ça et ton expérience, elle te fait dire quoi?
Alors, je ne pourrais pas m'exprimer pour tous les sports. En revanche, pour ceux que j'ai un peu plus pratiqués, comme le foot et le basket, j'aurais tendance à être d'accord avec toi.
Ouais.
C'est-à-dire que l'ambition, elle reste quand même la même. L'ambition, elle est double. Elle est d'abord opérationnelle quand on gère une arène, c'est-à-dire l'excellence de ce que tu proposes à tes publics, les équipes, les sportifs qui viennent jouer dans ton stade ou dans ton arène, et puis les publics qui viennent, qui viennent voir le match. C'est des notions qui ont attrait à l'accessibilité, l'accueil, la sécurité, la propreté, la capacité à proposer une restauration de qualité. Ouais. Donc tous ces sujets-là, ils sont communs à toutes les salles.
Ouais.
Globalement, tu les auras toujours. Et puis à côté de ce point-là, qui est évidemment la base, tu as la brique qui peut peut-être changer d'un sport à l'autre, mais là encore, l'ambition reste la même, c'est la génération de revenus autour du match. Et donc, tu as les fameux revenus match day, dont on va sûrement reparler, donc liés à la billetterie, liés à la vente des places d'hospitalité, et puis tous les revenus que tu es en mesure de générer autour des différents publics qui viennent fréquenter ton aréna ou ton stade à l'occasion des matchs.
Et je t'ai posé la question effectivement à travers les sports, mais est-ce que c'est pas une question plus pertinente, que de te demander la différence entre la gestion d'une arène pour l'entertainment, de l'événement ponctuel, même si c'est du sportif, du concert, etc., et la gestion d'un stade qui accueille le même club tous les 15 jours? Est-ce que là, tu vois des vraies différences ou pour toi, c'est simplement les mêmes enjeux que ceux que tu viens d'évoquer?
Pour moi, la principale différence, peut-être, c'est le fait que le public est davantage récurrent quand tu es dans une logique de club résident. Tu t'adresses pas toujours aux mêmes fans, mais tu as quand même une base assez importante de gens que tu peux adresser régulièrement, avec qui tu construis une relation. Alors que quand tu accueilles des shows qui sont jamais les mêmes, jamais le même artiste, le public change, donc t'as pas les mêmes logiques qui sont à l'œuvre en termes de fidélisation, de communication entre les matchs, avec un public dont tu sais qu'il est déjà venu et qui va revenir, dont tu peux évidemment améliorer l'expérience d'une fois à l'autre. Elles sont plutôt là, à mon avis, les différences. D'accord. Elles sont assez fines. Pour le reste, sur ta capacité à bien accueillir le public, à proposer la meilleure plateforme pour que tout le monde passe le meilleur moment possible, et à maximiser tes revenus, je pense que les ambitions et les stratégies se ressemblent.
Et est-ce que, même si les différences sont effectivement relativement minimes, est-ce que c'est quand tu as une salle comme le Staples Center, la Crypto.com Arena, c'est ça?
Oui.
Moi, je fais partie des gens qui ont encore Bercy pour parler de la Core Arena, donc, qui pour le coup fait les deux, et même on reviendra ensuite en les différences entre les pays. Mais est-ce que le fait de faire de l'entertainment, c'est aussi un avantage parce que tu apprends aussi de ce milieu-là, et il y a des choses qui sont valables dans le sport, ou est-ce que l'inverse est vrai? Enfin, est-ce que c'est des apprentissages et des usages qui sont poreux entre eux en termes d'utilisation de l'arène?
Ouais, je pense qu'ils le sont, et en termes d'influence de l'un et l'autre, il y a des passerelles qui existent et qui, à mon sens, ont été déjà assez clairement identifiées dans la majorité des cas. Alors, modulo, de quelle arène on parle, de quel marché, de quel sport, tout n'est pas transposable partout. En revanche, à mon avis, quand on parle de l'expérience dans l'arène, c'est vraiment l'expérience spectateur.
Ouais.
Je pense que le sport s'est quand même beaucoup inspiré ces dernières années de l'entertainment. Quand tu vois tous les nouveaux projets de stade, ils intègrent dès leur conception une brique qui est, à mon avis, très clairement inspirée de l'entertainment sur la taille des écrans géants, le nombre de LED, la qualité de l'éclairage qui permet de faire typiquement, je crois que le Stade de France vient de refaire intégralement son système de LED pour pouvoir faire des shows lumineux avant, après, et améliorer sensiblement l'expérience spectateur. C'est ce genre de choses-là, à mon avis, qui est inspiré directement de l'entertainment, même si le sport, il serait venu de toute façon sans...
Ouais, ce serait quoi les dernières grosses nouveautés en termes d'expérience sport dans les stades? Là, tu parlais de l'éclairage ou tu parlais de LED. Ce serait quoi ce sur quoi on met...
L'accent.
L'accent, ouais, c'est ça que je trouve. C'est sur quoi on met l'accent sur les derniers stades qui ont été construits, ou est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau où on fait attention? Le son, la sonorisation,
l'acoustique, je pense que c'est...
L'acoustique, c'est un sujet majeur dès lors qu'on veut accueillir notamment des concerts, même si c'est vrai également aussi pour une compétition sportive. Je pense que c'est des choses aussi simples que quand on parle des nouveaux projets de stade, par exemple Tottenham, l'inclinaison de la tribune, la proximité du fan avec le stade, sa capacité pour le coup à avoir une interaction beaucoup plus importante avec le sportif, avec l'équipe, mais les sujets qu'on mentionnait sur l'éclairage, les retours vidéo, les écrans,
c'est les basiques finalement.
Ça, c'est les basiques.
Comment améliorer les basiques?
Mais entre le fait de l'avoir et de cocher la case Et le fait de l'optimiser, il y a différentes marches.
Mais c'est un vrai sujet, ça, parce que tu as souvent le truc où, notamment avant les finales de rugby en France ou les finales de Coupe de la Coupe de France, on fait le procès, tu sais, de la cérémonie d'ouverture, on devant un show à l'américaine et à l'arrivée, ça sonne un peu faux. Mais c'est aussi parce que pour pouvoir faire un show, il faut que tu aies l'outil.
Qu'est-ce qui est dans le cahier des charges entre ce qu'on demandait à un architecte, en 94, quand le Stade de France a été lancé, et aujourd'hui, qu'est-ce qui maintenant est forcément dans le cahier des charges, alors que ça n'y était pas dans les années 90, par exemple?
Non, je pense que c'est dès la conception intégrer une modularité plus forte, même si le Stade de France était plutôt novateur.
En 98.
En 90, enfin, il est plutôt construit un peu plus tôt, mais ouais. Il était novateur. Il l'est moins parce qu'il il a son âge, il a 30 ans. Je sais que le consortium a fait de gros investissements là aussi à la faveur des JO, ouais. Sur les écrans géants, sur les LED, on en parlait, pour justement intégrer cette dimension-là qu'ils n'avaient pas vraiment. Et effectivement, tu le disais, Mathieu, la concurrence, elle est féroce. Il y a des nouveaux stades qui sont construits assez régulièrement. Et effectivement, entre un stade qui a 3 ans et un stade qui en a 30, la comparaison, elle est compliquée pour le plus vieux. Donc, c'est vraiment axé à la fois sur l'expérience, l'accueil des différents publics, parce que ça va du sportif ou de la star, un concert puisse être installé le plus rapidement possible, repartir le plus vite possible, de façon à ce que lui gagne du temps sur sa tournée, et puis que le stade ou l'arène puisse en accueillir un autre très vite. Comment est-ce qu'on fait pour proposer une modularité importante? Et puis aussi, on parlait tout à l'heure des différents types de publics, je crois que ça c'est un vrai point sur tous les nouveaux stades, la multiplicité des offres, avec une personnification très importante, où on va cibler spécifiquement des publics pour aller vendre tel type de loge, tel type de salon, tel type d'expérience. Il y a une mode à un moment donné, moi quand j'étais à l'AFP, des tribunes famille, accueillir des nouveaux publics, accueillir des publics un peu plus féminins, notamment quand on parle du foot. Donc c'est des tendances qui sont toujours présentes et qui sont effectivement intégrées dans les nouveaux cahiers des charges. Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait absolument plus? J'aurais du mal à le dire là comme ça, mais en revanche on voit une tendance des choses qui se font de plus en plus.
Alternative football.
Mais est-ce que du coup, qu'est-ce qui pose problème? Alors venons-en au Parc des Princes. Qu'est-ce déjà, au-delà, voilà, bah, non mais ça, au-delà,
là,
non mais
là, je m'en mets droit.
Non mais c'est un exemple concret de qu'est-ce qui, au-delà du nombre de places et du fait que le PSG actuel et sa direction voulaient plus de places, qu'est-ce qu'on peut pas faire dans le Parc des Princes? En quoi il est limité? Au-delà du nombre de places.
Moi, je peux donner le retour du supporter du PSG qui a été au parc avant sa configuration actuelle, qui était déjà différente. Et ce que tu entends beaucoup sur le Parc des Princes, ça, j'ai pas. Si tu veux, je saurais même pas te dire si c'est vérifié ou pas, parce que j'ai pas les plans et j'ai jamais discuté avec les architectes. Mais t'as déjà une limite structurelle, c'est-à-dire qu'il y a le périph' en dessous, donc tu peux pas creuser trop. Et si tu veux aller plus haut, il faut péter le toit et remettre un toit. Et t'es en zone résidentielle. Donc tu peux pas faire ce que tu veux au niveau des travaux, donc il y a des limites structurelles, je pense, et c'est pas contextuel le mot que je cherche, mais en tout cas lié à l'endroit où est le stade, qui fait que ta capacité à l'étendre déjà est limitée.
Oui, mais au-delà de ça.
Après, c'était une question que moi j'avais pour toi, Gaël, c'est la volonté du PSG de posséder son stade. C'est, elle est motivée par quoi? Encore une fois, je mets ma casquette Monsieur Naïf, qui me va particulièrement bien. Pour moi, si les propriétaires veulent posséder le stade, c'est pour une question de revenus et quasiment seulement. Est-ce que toi, c'est ta lecture, et est-ce que la volonté pour un club de posséder son stade, elle est motivée uniquement par le fait de mieux maîtriser ses revenus?
Alors, la réponse, elle est oui, mais alors il y a beaucoup de mais.
Ouais.
Si on parle du parc, les 10 ans qui viennent de se passer sont l'exemple, à mon avis, par la preuve que... le stade n'a pas besoin d'être possédé par le PSG pour que les revenus augmentent.
Pour que les revenus augmentent, parce que déjà.
Si j'en crois les chiffres de la saison 21-22, le PSG est quand même le premier club européen dans le classement des revenus match day. Ils sont au-delà de 130 millions d'euros. Donc c'est extrêmement significatif. Et ça, ils l'ont fait sans posséder le stade. Après, on est tous d'accord pour partager le constat que dans la lutte qu'ils mènent avec les grands cadres européens, ils ont un stade qui est plus petit, ouais. C'est 48 000, là où Barcelone, ce sera bientôt plus de 100 000. Ouais. Le Real, c'est 80, le Bayern, c'est 75, et United, c'est 75 aussi, je crois. Ouais. Donc, ils arrivent à un moment où ils enchaînent les matchs à guichet fermé, et ils se disent que pour aller au-delà, il va falloir l'agrandir. Et je pense que moi, on est davantage sur un... sur un aspect assez psychologique que je comprends, que j'entends, qui consiste à dire si je mets 500 millions dans le stade pour en faire quelque chose de plus grand, de plus moderne, je veux que ce soit le mien. Je veux que ce soit le mien.
Ce qui s'entend, au-delà de toute émotion. C'est-à-dire, c'est pour quelqu'un qui, pour un investisseur, ça s'entend.
En revanche, si la question c'est, et je sais que c'est pas ça, mais si la question avait été, est-ce qu'ils ont besoin de le posséder pour continuer à augmenter les revenus, pour continuer à investir dedans, la réponse c'est non. C'est-à-dire que la formule que la ville de Paris semble appeler de ses voeux désormais, à savoir, on va vous proposer une nouvelle convention d'occupation de domaine public plus longue, avec un loyer modéré, où vous allez pouvoir, pour le coup, planifier de nouveaux travaux, c'est possible.
Ouais.
C'est possible, ça t'apporte une situation de quasi-propriétaire, mais je comprends que ce soit pas le projet tel que le Qatar et l'actionnaire l'avaient envisagé dès le début, sachant que, pour le coup, on peut pas leur faire ce reproche-là, ils ont été très clairs dès le début, ils voulaient le stade.
Ouais. Ton décryptage est intéressant, parce que on peut pas effectivement enlever le côté émotionnel slash positionnement du club par rapport aux autres. Et la question que j'avais pour toi après, c'est est-ce que le fait de posséder son stade, c'est aussi un problème ou une volonté de riche? Parce que quand tu regardes les équipes aujourd'hui qui sont propriétaires de leur stade, on retrouve les Real, Barça, Bayern, Manchester United, Arsenal, les Spurs. Donc, c'est les plus grands clubs européens qui sont propriétaires de leur stade. Là, on comprend que les revenus, tu peux les générer sans forcément être propriétaire, mais tu as aussi une question de stature du club. Et en gros, quand je suis un grand club, j'ai la capacité d'avoir mon stade. Et la position du PSG, elle s'explique certainement par ça aujourd'hui. Et que ça fait maintenant plus de 10 ans qu'ils sont là et que cette étape, elle doit être franchie.
Il y a peut-être un autre élément qui vient s'ajouter à ça, c'est que je crois comprendre, là encore par la presse, que le PSG est en discussion pour une ouverture de son capital. Avec des fonds potentiellement américains. Dès l'instant que le stade est à toi, c'est un actif que tu valorises. Et donc, ton club a tout à fait la même surface en termes de valorisation. Donc là, il y a peut-être un sujet aussi de cet ordre-là.
Et d'ailleurs, est-ce que le fait que ce soit des fonds américains, est-ce que culturellement, pour un fonds américain, tu vas plus facilement mettre de l'argent dans un club si ce club est propriétaire, ou au final, il y a tous les modèles aux États-Unis? Et ça va me permettre de poser la question de savoir un peu quels sont les différents modèles chez vous, entre vous êtes propriétaire, est-ce que vous êtes exploitant, quels sont tous les différents modèles qui peuvent exister, que ce soit aux États-Unis, mais peut-être commençons par la France.
Pour répondre à ta première question, je ne suis pas certain qu'un fonds mettra de l'argent ou n'en mettra pas, il en mettra peut-être davantage. Effectivement, si à ton actif, tu possèdes le stade.
De l'infra.
L'infrastructure, pour le coup, elle se valorise davantage que l'IP ou que ton... Ouais. Ou que ton
puis c'est du ton, tangible, ton, c'est là, voilà. C'est physique, tu peux cogner dessus.
C'est de la pierre.
Ton actif joueur, il rentre, il sort. Bon, il a l'air de sortir pour certains au PSG.
Moi, c'était plus le côté culturel. C'était le côté culturel. Est-ce qu'un fonds américain est plus attaché à ça ou il va plus faire attention à ça dans le fait de racheter ou rien avoir puis finalement.
Mais je pense que c'est des pragmatiques. Donc en fait, ils vont regarder la valeur globale. Et effectivement, si dans ta proposition l'un des actifs c'est quelque chose qui vient augmenter la valeur et qu'en plus c'est du tangible, c'est effectivement une valeur entre guillemets sûre comme de la pierre, que ce soit ton centre d'entraînement ou ton stade, forcément. Ça attire plus l'investisseur et pas uniquement américain d'ailleurs. Tu vois, quand tu regardes des clubs qui ont récemment eu des nouveaux ownerships, tu vois comment l'OGC Nice a travaillé par exemple. Ils ont construit un stade, ils ont construit un centre d'entraînement et boum, après forcément t'as un produit qui est un peu plus intéressant pour le mec qui veut investir. Donc ça, je pense que c'est plus une culture d'invest globale où tu dis l'investissement est un peu moins risqué parce qu'au-delà des choses qui sont très volatiles comme les joueurs là.
La ligue ouverte et le fait que tu puisses monter descendre.
Exactement, j'ai de l'IMO et ça a de la valeur.
Le contre-exemple sur les fonds américains, c'est ce qui se passe en Italie depuis quelques années. Tu as des fonds qui viennent d'acheter Rome, l'AC Milan avec le fonds Redbird il n'y a pas longtemps, c'est des clubs qui ne possèdent pas leur stade, qui pour la plupart ont un projet de stade en développement. Alors Rome, ça dure depuis longtemps.
Rome, nous avons vu des... Puis Rome, tu avais des effets d'annonce autour d'un nouveau Colisée. Enfin, tu peux raconter une histoire incroyable. Je me rappelle de vidéos marketing qui avaient été postées par l'AS Rome. Je sais pas si tu t'en rappelles, c'était un nouveau Colisée tout en verre et tout. Enfin, mais ça fait bien 5 ans, tu vois.
Et les deux Milan sont... Alors, il y a un Milan qui est détenu par des Chinois, un Milan qui est détenu maintenant par un fonds américain qui sont en discussion là aussi sur le nouveau San Siro. Au début, ils devaient le faire ensemble. Maintenant, c'est chacun part un peu de son côté. Donc, non, je pense pas que ce soit un élément bloquant.
Okay.
En revanche, je pense que le PSG va pas ouvrir son capital pour un petit montant. Et donc, ils mettent tous les éléments de leur côté pour faire en sorte que cette valeur soit maximale.
Et question peut-être bête, mais on parle. Moi, je compare.
Jamais, tu ne poses jamais de questions.
Non, mais je compare un peu à l'immobilier, c'est-à-dire que les valeurs des appartements, même s'il y a l'inflation, là, du coup, on a vu, il y a un petit coup d'arrêt sur les appartements, mettons à Paris ou en France, qui ont un peu baissé. Est-ce que la valeur d'un stade, c'est comme les valeurs des appartements, la pierre, ça ne peut pas baisser? Ou on a déjà vu des stades dont la valeur baissait? Ou finalement t'es sûr vraiment que la valeur va rester, va toujours grandir et accroître? Comment ça se passe là? Comment tu estimes la valeur d'un stade?
Alors il y a assez peu de transactions, donc on n'a pas un meilleur agent des stades.
Meilleurstade.com.
Il y a pas. Peut-être une idée.
Le business.
Attends, je mets la note.
La discussion elle est très très compliquée toujours parce que il y a peu d'acheteurs. Donc la concurrence au niveau des acheteurs potentiels elle est faible. Et si on reprend encore l'exemple du PSG, il y a que le PSG qui l'exploite. Ouais. Donc aujourd'hui, le PSG peut dire, si moi, je ne suis pas dedans, il vaut par nature rien du tout.
Ouais.
Donc, tu pourras toujours avoir des gens qui vont t'apporter une expertise immobilière plus classique, te dire, j'ai X mètres carrés, je suis dans un coin sympa du 16e, donc ça vaut 500 millions, 1 milliard. Dans les faits, on sait que demain, le stade, il sera pas rasé pour construire des appartements à la place. Mmh. Donc, la valorisation, elle est très compliquée. Avec, en plus, il faut rajouter à ça un aspect très... irrationnel de l'ordre du symbole pour le vendeur qui a tendance à survaloriser son équipement et puis un acheteur qui sait ce que ça va lui coûter, qui sait ce qu'il va pouvoir en retirer et donc finalement assez peu de ventes parce que les parties, même quand elles ont décidé pour l'une d'acheter pour l'autre de vendre, ont du mal à se mettre d'accord. Là, c'est l'exemple pour le coup de la discussion entre la mairie de Paris et le PSG.
Okay. Je reviens sur les revenus dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a le revenu billetterie et ça le revenu qu'on va associer en premier au stade. Derrière, ce qu'on appelle food and beverage, donc
nourriture et boissons.
Ouais, mais j'ai cherché le nom qu'on donne en France, c'est les buvettes, voilà, les fameuses buvettes. Et ça sent bon le foot du dimanche en plus quand on dit ça. Mais c'est pas que ça. Donc encore une fois, si on essaye d'ouvrir un peu le spectre, les revenus associés au stade, quels sont-ils et à quel point tu peux les diversifier?
Alors il y a deux.
Au stade et aux arènes d'ailleurs, parce je dis stade par déformation footballistique. Mais
pas de problème. Deux choses. D'abord, est-ce que si t'es le club résident qui est exploitant, ou si t'es un exploitant tiers qui loue ton stade à un club résident ou à un concert? Et puis l'autre élément à garder en tête, c'est le match day en tant que tel et le hors match day, puisque ça devient pour le coup un vrai sujet désormais. Si on se met dans le cadre assez classique de je suis le PSG, pour continuer à filer la métaphore, et j'organise mon match, un jour de match, évidemment mes revenus c'est la billetterie grand public. De plus en plus, à ce que je comprends, la plateforme de revente des billets.
C'est un vrai sujet.
Qui devient, à mon avis, un vrai sujet de revenus pour le club. C'est la vente de mes places hospitalité, loge à l'année, salon à l'année, loge au match s'il y en a.
D'ailleurs, les hospices, c'est un vrai sujet au parc, parce que pour un tel produit, entre guillemets, tu as très peu d'hospices au parc.
Ouais. Tu as cette contrainte-là qui est la même que celle sur la capacité globale. En même temps, c'est aussi une force du parc aujourd'hui, c'est-à-dire que la limite de l'offre fait que l'élasticité prix est énorme.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils ont une capacité à très bien vendre et à maximiser la valeur de chacun de leurs produits, qu'ils n'auraient peut-être pas s'ils avaient un stade de 100 000 personnes à Saint-Denis, par exemple. Mmh. Donc tu as ces éléments-là, tu as le FNB, tu as toute la partie partenariat, tous les sponsors qui viennent s'associer à ton stade, qui viennent soit mettre leur logo sur ton LED, soit faire une activation à la mi-temps ou avant le match, qui viennent donner leur nom à un salon, qui potentiellement donnent leur nom à l'enceinte avec le concept du naming. Donc tu as toute cette partie-là. Et puis tu as pour certains stades des revenus liés au parking. Si tu as une boutique dans ton stade, tu as du merchandising qui vient s'ajouter à ça. Donc ça, c'est vraiment la partie match day. Hors match day, tu as tout ce qu'on appelle la diversification. Et là, en fonction de ton marché, en fonction de ton stade, en fonction de tes ambitions en tant qu'exploitant au club, y a le champ des possibles est plutôt large. Hein. C'est des séminaires pour les entreprises, c'est les tours de stade, c'est les musées, c'est, je crois qu'au parc, on peut fêter son anniversaire.
Ouais.
C'est un escape game, c'est de la restauration si tu as un restaurant qui peut être ouvert aussi sur l'extérieur et qui, lui, peut être ouvert en dehors des jours de match. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Des locaux commerciaux, dans certaines arènes.
Tu
peux être très créatif.
Ouais. Et c'est vraiment là-dessus maintenant où c'est plutôt sur les jours de match, on sait, on a déjà tout exploité ou tout. On a réussi à tout exploiter. C'est plutôt les jours hors match où finalement on va essayer de trouver des nouvelles idées où là il y a des nouvelles choses qui se font en ce moment.
Si ton marché le permet, à mon avis, oui. C'est-à-dire que personne n'est capable de dire, à mon sens, qu'il a poussé les curseurs jour de match au maximum. Tu peux toujours, évidemment, continuer à optimiser cette partie-là. En revanche, si tu prends ton année calendaire de 365 jours, tu as 30 matchs. Il t'en reste un petit bout sur lequel tu peux développer un certain nombre d'activités qui seront, évidemment, au global, vraisemblablement moins rentables que tes jours de match, qui restent en cœur d'activité, mais qui vont te permettre quand même de générer des revenus qui peuvent ne pas être négligeables à la fin. En revanche, ça demande une envie du club, une stratégie, des moyens, des gens. Et je sais que le PSG notamment le fait beaucoup. Il y a des clubs qui sont pas là encore.
Ils ont pas le temps.
Soit parce qu'ils n'ont pas l'envie, soit parce que c'est pas une priorité, soit parce que les moyens sont alloués ailleurs. Ouais.
Alternative football. Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.
Alors, on parle beaucoup, beaucoup revenus, mais il y a une vraie question qui est certainement plus pertinente dans les affaires, c'est la renta d'une arène. C'est-à-dire que, alors, encore une fois, j'imagine que ça dépend des facteurs donc, qu'on vient d'évoquer sur où est-ce que t'es, ton marché, l'activité, etc. Mais est-ce que malgré toutes ces capacités à générer de l'argent, c'est forcément rentable une arène quand on... Parce qu'on imagine forcément des coûts assez élevés, ne serait-ce qu'en entretien, en maintenance. Est-ce que c'est plutôt rentable une arène ou un stade, ou est-ce que c'est plutôt un poste quasiment de dépense quand on met tout bout à bout?
Alors, ce sont évidemment des équipements qui coûtent beaucoup d'argent. Ouais. Très clairement, l'entretien, la maintenance, la partie bâtimentaire, l'énergie, qui était moins un sujet prégnant il y a 24 mois, qui désormais devient un vrai, vrai sujet. Donc oui, c'est un coût, c'est un coût financier, puis c'est un coût en termes de staff, parce qu'il faut vraiment s'en occuper. Et on parlait évidemment de quelle aréna, quel marché, mais au-delà de ça, c'est quelle a été sa conception, quel est son état de vétusté. Tu as des arénas qui sont par nature, parce qu'elles sont trop vieilles, parce qu'elles ne te permettent pas d'optimiser un certain nombre ou de réduire un certain nombre de dépenses, qui vont être très compliquées à équilibrer. Donc l'enjeu, il est maîtriser ces sujets-là de dépenses, d'entretien, de conservation du bien en tant que tel, avec des sujets de booking d'événements, c'est-à-dire que ta capacité à accueillir le maximum d'événements possibles. Et là, pour le coup, ça dépend vraiment du type d'équipement et du marché sur lequel tu opères. Mais moi, je peux vous donner quelques chiffres de comparaison. L'Accor Arena à Paris, c'est 140 événements par an cette année. L'O2 à Londres, c'est 220. Crypto.com Arena à LA, c'est 250.
Donc
250 événements sur 365 jours.
Tous les jours.
Sachant que globalement, le gros du trou, il se fait pendant l'été. Là où toute la partie touring la musique se passe plutôt en extérieur. Donc c'est plutôt la partie calme dans les arènes où là, tu mets en place les. Toute la partie entretien, quand faut remettre un coup de peinture, quand faut changer quelque chose, c'est là que tu le fais. Donc,
250, c'est énorme.
L'O2, par exemple, à Londres, en mars et en avril, c'est. C'est 25 événements par mois, sur chacun de ces deux mois. Donc, c'est 25 événements sur 30 jours.
Ouais, donc, ça vit la nuit, quoi.
Ouais, c'est comme
Disneyland. C'est 24 heures sur 24, quoi. C'est ouvert tout le temps.
La nuit, change la scène.
Entre t'as une prod qui arrive à 6 heures du matin, qui s'installe, qui joue le soir. T'es pas sorti de la salle, toi, en tant que spectateur, que t'as déjà les techniciens qui commencent à démonter. À 1h du matin, 2h du matin, ils sont partis. L'équipe de l'aréna fait le cleaning, remet l'aréna en place, et à 6h, t'as une nouvelle prod qui arrive.
C'est pour ça que les gens, ils comprennent pas quand ils font des rappels et que l'artiste revient pas, ils comprennent pas pourquoi il revient pas.
Non, en fait, on l'a booké jusqu'à. Tu sais, c'est comme quand tu joues au tennis. Non, mais on a le cours jusqu'à 19h, les mecs.
L'artiste a des amendes, je pense, après, parce que s'il lâche trop tard, t'as des amendes après.
Mais 250, c'est énorme. Ça veut dire que oui, il te reste 100 jours dans l'année pour l'entretien, changer de scène.
Alors, à LA, ils font plusieurs événements par jour. C'est une arène qui a quand même 4 clubs résidents.
4
Il y a deux NBA, Lakers, Clippers, NHL, les Kings et les Sparks en WNBA. Ah ouais.
Et jamais ils se marchent sur les pieds, quoi.
Donc ils sont capables. Je crois qu'ils ont déjà fait 3 événements Mais il faut que je vérifie ça quand même. Ça, c'est deux, c'est régulier. Ouais.
Et ça doit être l'arène la plus utilisée du monde, non?
Ouais. Ouais.
Ah ouais.
Mais parce que c'est Los Angeles.
Oui, avec les Lakers, c'est pop quoi. T'es au-delà du sport, bien entendu avec la legacy Kobe Bryant. Maintenant, ça fait partie des expériences et c'est un truc vers lequel tendent aussi les clubs de foot, notamment le PSG. C'est tu vas à LA, que tu comprennes le basket, que tu l'aimes, que tu en as déjà regardé, déjà pratiqué, ça fait partie du truc que tu dois faire. Le parc, l'expérience PSG, elle tend à ça aujourd'hui. Elle tend à être dans l'ordre des visites de ce que tu fais quand t'es touriste à Paris. C'est-à-dire que tu vas à Disneyland, tu vas faire la Tour Eiffel, et le dimanche soir, tu vas au parc. Et, ça, et c'est aussi ce qui explique l'envol des prix sur la plateforme de revente. C'est parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des choses à faire, parce que tu as... tu as ou tu avais Messi, Neymar et Mbappé. Et en fait, c'est une attraction. Et dans cette construction-là, c'est là où je vais partir un petit peu plus sur le côté culture qui est là plus pour... dans le sweet spot de SoFoot, tu vois. C'est à quel point tu as un shift pour un club comme le PSG entre le parc, ne serait-ce qu'avec ce nom-là qui est hyper particulier, l'attachement des supporters du PSG et son utilisation en fait en tant que quantité club est-ce que c'est pas un besoin qui est dépassé aujourd'hui pour les propriétaires du PSG qui eux cherchent un lieu pour accueillir le plus de touristes possible. Si on retire le volet émotionnel, bien sûr que ça s'entend. Et l'idéal c'est quoi? L'idéal c'est d'avoir un modèle hybride où tu peux rester dans ton stade, tu le modernises et ça correspond à ce dont tu as besoin. Mais est-ce que c'est le cas pour Paris? J'ai même pas tous les éléments du dossier pour te dire que c'est le cas. Les seuls éléments de comparaison que j'ai, c'est Arsenal qui l'a fait il y a quelques années, c'est les Spurs qui l'ont fait récemment et c'était aussi des clubs qui étaient très attachés à leur stade. Et à l'ancrage à cet endroit-là.
Un contre-exemple, mais il y en a d'autres, parce que je viens justement d'en penser un deuxième, mais c'est le Real avec le nouveau Bernabeu. Ça fait 3 ans et demi que le stade est en travaux, il reste au même endroit, il le modernise dans des proportions assez significatives, je crois que c'est 600 millions de travaux, et l'objectif c'est que ça rapporte 150 millions de plus par an. Donc il est là aussi le relais de croissance, si on peut parler comme ça. L'autre, c'est évidemment le Barça, qui est en train de finaliser son projet. Alors là, je ne sais pas comment ils s'en sortent, parce que pour le coup, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus d'argent depuis un petit moment, mais ça continue à projeter des projets qui sont quand même assez pharaoniques, puisqu'ils passent au-dessus de 100 000, hein, je crois, en termes de capacité. Donc, et puis là aussi, c'est vraiment, pour le coup, pour générer davantage. Et elle est là, en fait, elle est là la scène de comparaison d'un PSG. Le PSG, il se compare déjà plus à ses petits camarades français dans le cadre du championnat domestique. Il se compare aux Anglais. Et aux grands Espagnols. Et je pense que de son point de vue, c'est pas moi qui le dis, mais c'est plutôt le sentiment que je leur prête. Ils ont déjà l'impression d'être en retard sur un certain nombre de revenus, type revenus centralisés. Les droits médias en France, ils sont, on le sait, moins importants, ça c'est factuel, qu'en Angleterre ou en Espagne. Ils ont l'impression qu'ils ont un cadre fiscal qui est un peu défavorable. Et donc, ils se disent sur les revenus match qu'il faut aller toujours vers le plus haut.
Oui, non, mais...
En revanche, on voit d'où naît ce raisonnement.
Et est-ce qu'il y a des exemples de clubs qui ont migré et où finalement, ça a été un mauvais choix? Est-ce qu'il y a un risque pour le PSG? Quel est le risque pour le PSG de migrer au Stade de France s'ils choisissent?
D'exemples, comme ça, de but en blanc, j'en ai pas.
Est-ce que Lyon, c'est un bon exemple d'un club qui a réussi?
Encore une fois, j'ai pas du tout les éléments du dossier. Le point, c'est pas de critiquer le choix de Lyon d'aller au Parc OL, parce que j'imagine qu'ils ont fait leur travail et qu'avant, ils ont fait les recherches nécessaires. Mais force est de constater qu'à Lyon, t'as un problème de remplissage. Selon moi, ma perception est que c'est plus dû à la taille du stade par rapport à l'intérêt du marché lyonnais pour le foot, d'un point de vue en volume, que nécessairement un désintérêt des fans lyonnais historiques étaient à Gerland pour le site de Décines. Après, il faudrait peut-être en parler à un lyonnais qui est dans une réponse différente. Mais
après, tu ramènes Messi, tu remplis ton stade aussi. Donc il y a peut-être qu'ils misaient sur le fait de sportivement être meilleur, jouer la Ligue des Champions et puis...
Je crois qu'il y a quand même une mauvaise conjoncture. Il y a la courbe sportive et effectivement qui se croise pas au bon moment.
Mais du coup,
il y a un autre point aussi pour Lyon, c'est qu'au-delà du sujet stade, il y avait un sujet beaucoup plus large pour le club. C'est-à-dire qu'il y a le parc OL ou OL Valley, Il y a maintenant l'Arena qui sont en train de construire. C'est beaucoup plus large que simplement remplacer ouais. Gerland par le Groupama Stadium.
Là, du coup, ils vont avoir une arène pour laquelle ils vont. Enfin, c'est multifonction. Il y a le basket, il y aura aussi les concerts. Donc, ils continuent sur le développement du parc OL. Il y a aussi le choix. Ils ont mis le centre d'entraînement là-bas. Donc, c'est un projet qui est effectivement un petit peu.
Ils ont développé de l'hôtellerie, il y a une clinique du sport, il y a un ensemble d'activités. Donc, c'est beaucoup plus large que simplement le club de foot. Ils dérisquent un peu l'activité foot en développant beaucoup de choses autour de l'immobilier. Dans une zone où c'était possible, alors qu'autour de Gerland, ça ne l'était pas.
Donc c'est trompeur de se concentrer, nous, en tant que juste journaliste sportif ou fan de foot, juste sur les revenus du stade, en fait. Finalement,
quand le projet est plus vaste.
Il s'y retrouve ailleurs, mais on n'a pas forcément les chiffres sur les cliniques et tout le reste.
Absolument. Alors après, moi, sur ce que j'avais vu pré-Covid, ils étaient plutôt contents de ce qu'ils faisaient, notamment hors football. Ils avaient le contrôle complet, évidemment, de l'équipement. Avec des concerts, avec du séminaire à destination des entreprises. Je crois qu'ils étaient plutôt contents de la façon dont ça se lançait. Maintenant, je ne sais pas comment ça reprend après le Covid, mais c'était plutôt un projet, à mon avis, qui avait l'assentiment de tout le monde au club. Hein. Ouais. Les fans, c'est toujours un autre sujet.
Ouais.
Le seul risque, finalement, c'est les fans. Parce qu'en fait, tu t'y retrouves. Fin...
On parlait tout à l'heure de ce qu'un stade t'apporte dans la valorisation du club. L'OL vient d'être vendu pour 800 millions.
Ouais.
Quelque chose comme ça.
Ouais.
Je pense que l'OL à Gerland, il n'est pas vendu 800 millions il y a 6 mois.
Et en ça, c'est un...
Les fans s'en moquent. Ouais. Je change un peu de sujet et je comprends pour un fan classique, ce ne soit pas le sujet. En revanche, pour le capitaine d'entreprise...
Ça valide le travail. Je suis
qui est Jean-Michel Aulas, ça avait du sens sur ce qu'il a construit depuis 40 ans qu'il est à la tête du club.
Et du coup, pour revenir un peu à une question de tout à l'heure, mais les différents modèles du coup qui puissent exister, même s'il y en a peut-être 40, et je n'ai pas envie de te faire citer les 40, mais c'est quoi tous les modèles possibles? Parce que même vous êtes parfois propriétaire, parfois exploitant, et donc on va peut-être prendre, plus que prendre l'exemple d'AEG, prenons les exemples de clubs, mais c'est quoi les différents modèles pour un club par rapport à son stade?
Il n'y en a pas tant que ça. Alors je vais commencer par AEG, c'est plus simple. Schématiquement, il y en a deux, où on est propriétaire exploitant. Los Angeles, Londres, Berlin, Las Vegas, ou alors on est exploitant pour le compte d'un tiers qui peut être un investisseur privé ou qui peut être une municipalité. L'exemple de Stockholm, pour le coup, on gère trois arénas et un stade pour la ville de Stockholm en étant uniquement opérateur. Si tu ramènes ça au foot, bah t'as très clairement soit des clubs qui sont propriétaires de leur stade, soit des clubs qui sont exploitants de leur stade, à la modèle du PSG, soit des clubs qui sont juste locataires. Bordeaux, avec un propriétaire, une société d'exploitation, et ensuite le club qui est locataire et qui paye un loyer en échange d'un certain nombre de dates de disponibilité par an.
Ok. Et sur ces dates-là, comment ça se passe pour les revenus ou les partages de revenus? C'est pareil.
Alors là, chaque contrat.
Et tout est imaginable.
Oui.
Je pense que c'est une négo.
Ouais,
okay. Tu t'assois sur la table et puis tu, en fonction de tes leviers, tu repars avec un plus ou moins bon deal. Je pense que ça, c'est assez.
Tu partages plus ou moins. Il y a des pots qui sont de toute façon toujours partagés, d'autres qui sont plus ou moins conservés par l'une des deux parties. Donc là, pour le coup, c'est de la négo.
Okay.
Et il y a donc forcément, il y a forcément un rapport de force dans la négo. Donc,
forcément, ouais. Ok.
Et du coup, parce qu'on parle beaucoup là du club propriétaire, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur la collectivité propriétaire? Est-ce que c'est rentable pour les collectivités d'être propriétaire de manière générale? Est-ce que c'est pour ça aussi que la mairie de Paris est attachée au parc, en se disant en fait c'est quand même un générateur de revenus important, donc on n'a pas envie qu'il parte dans le privé? Ou est-ce que parfois le côté propriété de la collectivité, c'est purement de l'émotion, en disant ça doit, par exemple il y a beaucoup de trucs qui reviennent, le Parc des Princes il doit appartenir à Paris parce que c'est un monument de la capitale,
c'est un patrimoine,
un patrimoine.
Des Parisiens. Je ne poserai pas vraiment le problème en ces termes sur la question de rentabilité, parce que pour moi, une collectivité ne le regarde pas forcément comme ça. Pour beaucoup d'entre elles, alors en France, très clairement, je ne sais pas si c'est 80 ou 90%, mais des équipements sportifs sont détenus par les collectivités, donc c'est un état de fait. Elles les ont financées, elles les entretiennent. La plupart du temps, elles les louent à un club résident. Ça reste quand même
c'est
pour
90% le chiffre.
Ah, je pense que c'est assez élevé. Hein.
C'est très français, ça, donc, comme modèle.
C'est particulièrement vrai en France. Ouais, je pourrais pas te sortir des comparatifs dans les autres pays européens, mais en France, c'est un vrai sujet. Pour beaucoup d'entre elles, c'est un centre de coût, si on parle vraiment financier. Mais je pense pas qu'elles le regardent comme ça. C'est surtout un outil de rayonnement, d'attractivité du territoire. Ça crée de l'emploi. Ça crée des retombées économiques, donc c'est plutôt comme ça qu'elle le voit. Donc il y a une logique d'investissement dans un outil qui fait rayonner bien plus que tout autre équipement. Quand tu as un club de Ligue 1 ou un club de Ligue 2, on parle de ta ville, on parle de ton stade, et donc politiquement il y a une valeur de symbole qui est à mon avis vraiment très importante. En ce qui concerne la ville de Paris, je t'avoue que je sais pas trop, puisque manifestement les discussions sur la vente ont eu lieu, donc ça devait être en partie envisagée, ouais. En tout cas sur le principe.
Oui, si on se met autour de la table, c'est qu'il y a un sujet. Ouais.
Il faut se rappeler quand même que c'est évidemment pas la maire de Paris seule qui décide de vendre ou de pas vendre, quel que soit le prix. Il faut que ça passe par évidemment un vote au Conseil de Paris. Pas certain en l'état actuel du rapport de force au sein de la majorité à la ville de Paris, que de toute façon une vente à QSI aurait été validée. Et si en plus les gens qui sont en charge du dossier à la ville de Paris estiment que la valorisation qu'en fait l'actionnaire est juste pas au niveau, ouais. Bon bah c'est assez clair, ouais. Les discussions s'arrêtent. Donc oui, il y a vraiment cette valeur émotive, symbolique pour une collectivité et pour Paris peut-être encore davantage que pour d'autres, parce que le Parc des Princes est devenu vraiment une icône,
ouais.
Très clairement.
Ouais.
Mais même architecturalement parlant.
Ouais, ouais,
enfin, c'est vraiment... je pense pas que t'aies des stades qui puissent être aussi beaux que celui-là.
Ouais, non,
mais même aujourd'hui, enfin, tu peux plus faire des stades comme ça qui doivent être. Où je pense que l'architecte a parlé, au-delà d'un cahier des charges qui ne se posait pas trop à l'époque.
T'as une identité effectivement architecturelle et visuelle. C'est vrai que c'est le reproche que tu peux faire au stade moderne, c'est que tu retrouves beaucoup la même architecture pour des questions pratiques, pour des questions d'acoustique, pour des raisons, tu vois, parfois de la capacité d'avoir un toit ou ce genre, ouais, de choses.
Mais ça fait le pont avec ce que tu disais tout à l'heure, la valeur d'un stade est beaucoup liée à ce qui s'est passé, ouais, aussi. Mmh. Et finalement, quand tu rachètes un stade, c'est le symbole d'acheter le stade. Où Zidane a marqué 2 buts de la tête en finale en 98, ou faut voir à qui ça parle, mais ouais, mais c'est un peu lié à ça, quoi.
Ce qui pour un acheteur potentiel n'a aucune valeur.
Ouais. Oui, c'est ça.
Il est froid, l'acheteur. Ouais. Lui,
ça présage en rien des revenus qu'il pourrait générer dans 2 ans. Le fait, enfin, on dit souvent notamment du Stade de France, et là ça va devenir un sujet aussi dans les prochains mois, le Stade de France, mais que c'est le seul stade du monde qui a accueilli JO, Coupe du Monde de football, ouais. L'Euro, Coupe du Monde de rugby, soit.
Super, ouais, l'investisseur.
D'accord.
Ouais.
C'est
combien de places
si vous l'achetez demain, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça me rapporte? Combien ça me coûte? Il est où le modèle? Il est plutôt, c'est plus froid comme approche quand, ouais, on est en train d'acheter ce genre d'équipe. Je reviens juste pour faire le lien avec ta question, Mathieu, sur la notion de rentabilité. On prend 3 exemples rapides. Le parc aujourd'hui pour la ville de Paris, c'est rentable parce qu'elle touche un loyer, ouais, du PSG, ouais, qui prend à sa charge l'exploitation du lieu. Le Stade de France, pour l'État français, depuis 30 ans, c'est plutôt une mauvaise opération financière. Là aussi, ça a été bien documenté par le Sénat et pas mal de rapports ces dernières années. Et l'autre exemple assez intéressant, c'est les PPP de l'Euro 2016, avec des collectivités qui se retrouvent un peu, pas au bord du gouffre, mais avec des stades à rembourser, des stades qui ne fonctionnent pas.
PPP, simplement pour la lecture, c'est partenariat public-privé.
Donc des stades construits avant l'Euro... en 2-3 ans, il faut construire un stade de plusieurs centaines de millions. Les collectivités n'ont pas l'argent et donc elles appellent des BTPistes qui, eux, amènent leur expertise en termes de conception, de construction, qui fournissent l'argent au moment de la construction, et puis qu'on rembourse un peu au fil de l'eau. Des stades qui sont construits avec des cahiers des charges UEFA, donc surdimensionnés pour l'usage qu'en fera ensuite le club résident. Donc on se retrouve avec un Nice qui a du mal à remplir à moitié son stade. Ouais. Je ne parlerai pas de Bordeaux parce que là c'est compliqué en ce moment, même si ça va beaucoup mieux. Et puis effectivement, des exploitants qui ne s'en sortent pas non plus, des exploitants tiers qui ne sont ni le club ni la collectivité, mais qui ne s'en sortent pas parce que c'est des stades en plus qui sont excentrés des centres-villes, pas toujours très bien desservis. Ouais. Donc des situations pas simples. Donc la rentabilité, elle n'est pas toujours au rendez-vous.
Et il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais je voulais te poser la question. Comment c'est géré un stade, c'est-à-dire en termes de métier? C'est-à-dire qu'il y a toutes les activités qu'on a énumérées dans un stade qui génère du revenu, mais derrière, c'est les équipes, c'est quoi? Les équipes, elles sont du coup chez le propriétaire, chez le club, c'est-à-dire que Bordeaux, ok, ils louent un stade, mais le jour où ils accueillent du public, est-ce que c'est eux qui ont des stewards? Est-ce que c'est eux qui ont les gens dans les buvettes? Enfin, comment ça s'organise J'imagine qu'il y a un stadium manager, quelqu'un qui chapeaute un petit peu tout ça dans les clubs. Comment est-ce que c'est organisé là, au jour le jour, la vie d'un stade?
Tout dépend si tu te places dans le cadre d'un club qui loue à la journée, qui effectivement plug son staff sur les journées qu'il a de location. Tu fais appel à des sociétés extérieures sur la sécu, les contrôles d'accès, les concessionnaires qui exploitent tes buvettes amènent leur staff. Donc c'est pas le club qui fournit les serveurs. Tous les gens qui vont te placer et tout, c'est pareil, c'est du personnel que tu prends à la journée, qui vient te rendre une prestation. Si tu es dans le cadre d'une arène pour un exploitant tel que nous, tu as un gros bout du staff qui est des gens qui s'occupent du bâtiment au quotidien. Ouais. Toutes les équipes techniques, les équipes bâtimentaires, l'entretien, l'énergie. Après, tu as les équipes IT. Après, tu as toute la partie sécurité. Et puis ensuite, tu as la partie entre guillemets business, donc les gens qui vont s'occuper de gérer la programmation, de booker les événements, de les délivrer. Les gens qui vont gérer la billetterie, les gens qui vont gérer le marketing, les gens qui vont vendre l'hospitalité, qui vont vendre les partenariats. Et puis après, les services support, comme dans une structure classique, du juridique, de la RH, de la finance. Pour donner un ordre de grandeur sur des arénas telles qu'on les gère en Europe, c'est plus de 100 personnes.
D'accord. Ouais. Donc c'est conséquent.
Au quotidien.
C'est plus de 100 personnes. L'Accor Arena, c'est plus de 100 personnes. L'O2 à Londres, c'est 150. Et quand Lyon ouvre le Groupama Stadium, quand le PSG récupère l'exploitation exclusive du parc, ils sont obligés de ramener beaucoup, beaucoup de compétences qui sont très spécifiques à la gestion de ces équipements-là.
De prestataires extérieurs, du coup ?
Non, je pense qu'ils ont internalisé une grosse partie de ce staff-là.
Ouais. Ok.
Parce que quand tu le gères à l'année, quand c'est ta responsabilité unique...
Un
club qui loue une journée par semaine le stade, il n'a pas besoin de l'intégrer, parce que généralement, l'exploit entière l'a fait, la maintenance, l'entretien, il la gère. Donc le club, il a juste besoin de venir plugger son dispositif pour le jour de match, mais c'est tout ce qui constitue la vie quotidienne de ton équipement, l'entretien et tout ça qui monopolise et qui demande beaucoup de ressources. Ouais. Et une expertise assez spécifique.
Ok. Je crois que tu avais une autre question. Moi, j'ai une autre question qui reviendrait après, mais du coup, elle sera peut-être plus en lien avec ta dernière question.
Je l'ai vu, ta question. Sans dévoiler les coulisses d'Alternative Football et la manière dont on met les questions, je l'ai vu, ta question. Mais effectivement, moi, j'avais une question qui était censée être une question de fin, même si M. Marchand nous a prévu une petite surprise. Du coup, après avoir dit tout ça, et sachant que tu as vu beaucoup d'arènes et de stades et que tu as fait différents pays, d'ailleurs, ça aurait été une question que je te pose, ça, le nombre de pays que tu as fait, le nombre de d'arènes et de stades que tu as fait, j'imagine que ça doit être assez impressionnant.
Il peut nous répondre.
Je ne sais pas si tu l'as en tête.
Voilà. Franchement, je n'ai pas la réponse.
Donc, selon toi, le meilleur stade ou la meilleure arène dans le monde, c'est laquelle ? C'est lequel ou laquelle ?
C'est la question la plus difficile, celle-là, ouais, parce que je ne veux pas me faire de...
Je ne peux pas te faire d'ennemis.
Je ne veux pas me faire d'ennemis. Ouais, je passe beaucoup, beaucoup de temps, moi, dans mon job au quotidien, dans nos arènes de Londres, de Paris et de Berlin,
ouais,
que j'aime toutes pour des raisons différentes. Donc, je ne vais volontairement pas choisir une arène à EG.
Ouais. Trop facile, sinon.
Non.
Ouais.
Celle qui m'a le plus impressionné dernièrement, c'est le Chase Center à San Francisco.
Ouais.
Donc, c'est la nouvelle arène des Warriors.
Des Warriors, ouais.
Qui a ouvert en 2018. Alors, les esprits chagrins me diront que pour 1 milliard 500 millions, on ouais. peut avoir une belle arena. Ouais. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est juste incroyable.
Ouais.
Incroyable. Le lieu, le parti pris architectural, la qualité de la conception des différents espaces. J'ai eu la chance d'avoir une visite un peu détaillée du lieu.
Ouais.
Vraiment très, très impressionnant.
D'accord.
T'as des exemples concrets de choses pour que les gens ils s'imaginent mieux, même le projet architectural, à quoi ça ressemble, ou qu'est-ce qui t'a impressionné, ou en quoi c'était un défi
Alors, n'étant pas moi-même archi, je ne vais pas pouvoir commenter l'aspect défi, mais la localisation sur le bord de la baie, face à avant ils étaient à Auckland, les Golden State, dans une arène un peu plus...
Ouais, Oracle Arena, qui était... Moi, j'ai eu l'occasion
connu pour son ambiance, mais un peu vétuste pour le coup.
Les coursives, elles sont aussi larges que cette pièce. Et, alors, c'est un beau studio qu'on a chez The Press by Alternative Football,
grand.
Mais pour faire passer des milliers de fans, tu vois, c'est pas forcément...
Tu vas énerver Thomas.
Là, j'ai eu un regard... Non, mais c'est très bien pour un studio de podcast, c'est moins bien pour faire passer les fans des Warriors et pour leur vendre des sandwichs. Mais
c'est plus l'impression qu'elle donne. Dès que tu rentres, tu as un effet vraiment waouh sur la qualité des matériaux, la qualité de la conception. Alors, on va pas rentrer dans le détail des produits d'hospitalité, mais il y a 10 niveaux de produits avec des choses qui sont d'une qualité absolument dingue. Et
tu as le droit d'entrer dans des niveaux pour que les gens s'imaginent des exemples très précis, très concrets.
C'est des niveaux et des sous-niveaux de loges, d'accès privilégiés en bord de terrain, liés à des loges un peu cachées sous les vestiaires, avec des prestations en termes de, d'espace, de, d'accueil, de qualité de la nourriture qui sont...
De personnalisation.
Ouais, qui sont vraiment très très élevés. Alors à des prix, mais là encore, le marché le justifie. Je crois que j'ai lu quelque part qu'un Golden State...
Lakers, là...
Golden State Lakers, c'est 10 millions, ouais. C'est 10 millions de dollars de billetterie. Donc, ouais. Donc voilà, le sujet mérite qu'on y investisse de l'argent et qu'on soit dans l'excellence. Mais vraiment, oui, pour ceux qui auront l'occasion d'y passer, je conseille.
Ouais. Est-ce que les vieux stades sont voués à disparaître? Les vieux stades de foot, comme on... Et est-ce que les stades dans les villes sont voués à disparaître ou pas?
Je dirais que sur les vieux stades... Non, ils ne sont pas voués à disparaître, ils ne sont pas voués à être rasés, ils ne sont pas voués à un déménagement en bonne et due forme. En revanche, un certain nombre d'entre eux, s'ils veulent rester pertinents, et encore une fois, on parle plutôt de foot ici, parce que ce n'est pas vrai pour tous les sports, mais ils devront en passer par un certain nombre de travaux, de mise à niveau, de réaménagement, parce que globalement aussi, ce qu'on vend, c'est une expérience. Via le SAT, on a beaucoup parlé de revenus, mais on met sur pied un écrin qui va permettre à des fans... de vivre peut-être le match de leur vie, celui qu'ils raconteront à leurs petits-enfants. Donc il faut du confort, c'est aussi bête qu'il faut des toilettes, il faut que quand tu veux aller chercher une boisson ou un sandwich, tu fasses pas la queue 5 heures. Et donc tout ça, ça demande des investissements réguliers, parce que très très vite, tu deviens un peu vétuste sur ce genre d'équipement-là. Et puis encore une fois, la course au nouveau stade, elle est là, que tu le veuilles ou non, et la comparaison est parfois difficile. Sur l'aspect centre-ville... je pense qu'il y a autant de réponses qu'il y a de villes. Nous, on est pour le coup à Paris confronté à un vrai souci de foncier. C'est un peu le cas à Londres, c'est un peu le cas. Enfin, on mentionnait tout à l'heure le nouveau San Siro ou le nouveau stade de l'AS Roma. Ouais. Le premier défi, c'est ça, c'est trouver le foncier. Ou Chelsea, c'est trouver le foncier. Donc, on est quand même aussi dans une époque où la course au gigantisme, elle n'est pas complètement finie, même si je sens qu'elle est un peu remise en cause sur certains projets, où il faut de l'espace. Il faut de l'espace pour la base de ton stade, mais aussi pour pouvoir y mettre des activités. Il y a des gens qui veulent développer, je crois qu'à l'Etihad, ils veulent développer une fan zone permanente autour du stade. Quand ton site, il est trop contraint, tu te crées des limites qui potentiellement viennent dégrader ton modèle. Je reviens une seconde sur Tottenham. Ouais. C'est le nouvel étalon sur ce qu'est un stade moderne. C'est la double pelouse. Qui est également mise en place à Bernabéu. Donc, t'as la pelouse naturelle et en dessous, t'as une pelouse hybride qui sont capables d'interchanger assez rapidement, qui te permet d'accueillir la NHL, des concerts sans labourer l'outil de travail des footballeurs le week-end, des matchs de rugby. Donc là, pour le coup, la modularité, la multifonctionnalité, elle est juste poussée à l'extrême. Là encore, c'est plus d'un milliard de construction. Donc,
c'est stocké sous le stade, c'est-à-dire que ça descend hyper bas et puis tu stockes en lamelles en fait la pelouse et dans la structure, tu peux arroser la pelouse quand elle est sous le truc, tu as les lampes à UV. Enfin, c'est incroyable comme.
Donc on se retrouve avec un club qui fait le double de revenus match day, je crois que c'est sur la saison 21-22, de ce qu'il faisait à White Hart Lane en 2016-2017. En revanche. Et c'est un vrai point, parce qu'on parlait de l'exploitation et de ce que ça veut dire aussi de construire un stade. Les frais d'exploitation, c'est plus de 100 millions de livres. Ce qui veut dire que Tottenham perd de l'argent. Alors, pas seulement à cause de son stade, mais ils en gagnent beaucoup plus, mais ils en dépensent aussi beaucoup plus. Donc, c'est pas juste des revenus qui rentrent tout seul. Faut internaliser, mobiliser des ressources, évidemment les payer. Et tout ça, ça a un coût.
Et comment ils pourraient ne pas en perdre, du coup?
Alors, le sujet de la perte, je pense que ça tient aussi à un vrai switch dans la politique sportive. C'est-à-dire que ça a été un club très conservateur qui achetait pas cher et vendait très cher et qui, depuis 2-3 ans, s'est mis à dépenser davantage aussi parce qu'il faut attirer les fans, il faut les rassurer. Et puis, ça commence à gronder aussi un peu ce positionnement du propriétaire d'être un peu chiche sur les dépenses. Donc, il y a eu quelques mauvais choix aussi de recrutement. C'est aussi là-dessus qu'ils perdent pas mal d'argent.
C'est plus risqué.
Donc, voilà.
Alternative Football.
Gaël, merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était passionnant. C'était plein d'apprentissage, en tout cas pour moi et je pense pour Maxime.
Ouais, j'aurais pu poser encore plein de questions, mais moi, je sais qu'après, il faut que je coupe. Donc,
Ouais, c'est ça. Après, c'est toi qui fais le montage. Après, fais-toi plaisir.
J'ai encore plus de temps après.
Non, Gaël, vraiment, merci beaucoup. On a passé un super moment. C'est comme ça que s'achève la saison 4 et non pas 3. Je vois pas passer les saisons, moi, tellement on se...
Plus on vieillit pas, donc c'est beau.
Exactement. On vous retrouve retrouve donc bientôt pour une saison 5
pleine de nouveautés.
Et on travaille. Il y a un déjeuner de l'état-major d'Alternative Football dans une semaine et demie. Ça va brainstormer. On salue une nouvelle fois Monsieur Cissé et on vous retrouve donc très bientôt. D'ici là, n'hésitez pas, comme d'habitude, à noter, commenter et nous suggérer des invités ou des sujets.
Et suivre la page LinkedIn.
Et attends, il y a la nouveauté. Et maintenant, Twitter et Instagram. On n'a pas encore fait la promotion pour leur faire justice, mais Alternative Football se déploie sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à venir nous voir là-bas aussi. Et TikTok. On est complet. C'est depuis que vous avez reçu la personne de TikTok. Voilà. À très vite.
Ciao, ciao. Salut. Merci à tous.
Alternative Football. Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.